Vous écoutez
RMC.
RMC.
Jusqu'à 7h.
Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
C'était un grenadier qui revenait de Flandre.
Messieurs, Pierre Perret, vous l'avez sans doute reconnu, qui a chanté beaucoup de chansons, et une chanson donc sur le grenadier, Patrick, je ne sais pas.
Alors, c'est pas le même, puisque là, il revenait de Flandre, il est certainement parti à la guerre, le pauvre. Mais Pierre Perret était quelqu'un qui aime bien le jardinage.
Qui aime bien le jardinage, oui. Bien sûr. Patrick, notre dossier de ce samedi matin, eh bien, c'est le grenadier, à savoir, bien sûr, les fruits. Et puis, donc, la plante, hein, puisque le grenadier est une plante aussi, forcément. Pourquoi vous avez souhaité de nous parler en détail du grenadier aujourd'hui?
Je pense que c'est à réhabiliter, parce que je vois quand on a la publicité ou les informations, on a parlé de ça ensemble, vous n'avez pas l'air d'être très 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 au fait de cette plante-là, qui n'est pas consommée régulièrement. Et surtout, pour les jardins, c'est des petits arbres, alors qui peuvent être un peu frileux, mais qui sont quand même très décoratifs et qui ne sont pas encombrants, avec des fleurs rouges magnifiques.
En plus.
Et puis, il en existe des tout petits, petits tout.
Ils font combien de fruits?
Ils font combien de fruits?
Par arbre.
Nous, on en avait chez mes beaux-parents en Touraine, qui faisaient peut-être une trentaine de fruits.
D'accord.
Oui.
D'accord.
Et qui éclatent souvent. Paf.
Ah
oui.
Tiens.
Pas comme une grenade, ça explose
non,
pas, mais ça
non,
se
non,
fend.
Ça se fend, d'accord.
Et vous voyez toute la chair qui apparaît comme cela.
Okay. Ça nourrit des oiseaux.
Entre autres.
Et puis ça peut nourrir les humains, et ça on va en parler dans un instant. Quelques mots pour nous présenter la plante, Patrick.
Donc ça peut être soit un arbuste. Alors la différence entre un arbre et un arbuste.
Ah oui.
Un arbre, ça fait un tronc, et un arbuste, ça fait plein de tiges qui partent de la souche.
D'accord.
Et qui font des multitroncs.
Okay.
Et qui sont généralement plus petits que les arbres. Mais là, on est sur un petit arbre, il va faire 4 à 6 mètres de hauteur, donc pour un petit jardin, c'est vraiment très intéressant. Ça dure longtemps. Ça peut vivre 200 ans, un grenadier.
Oula.
Ouais. Alors, le tronc est intéressant quand il vieillit.
Comme Christian Riquia, finalement, avec tous ces antioxydants, vit 200 ans, il faut le savoir. Hein.
Le tronc est tortueux, hein. il se tord chez les vieux sujets. En revanche, les branches, elles, sont assez grêles. Les feuilles sont pas extraordinaires, sauf qu'à l'automne, elles prennent des très très belles couleurs. Et puis, de juin à maintenant, au mois d'août, eh bien, on a une multitude de fleurs rouges, vives, hein, c'est très coloré, qui sont très intéressantes. On a un cultivar à fleurs doubles, lui qui fleurit même jusqu'à septembre et qui ne donne pas de fruits parce que les organes sexuels, donc les étamines notamment, ont été transformés en pétales, donc il est complètement stérile, mais il est intéressant. Et le petit dont je vous parlais, qui ne dépasse pas 60 cm de haut, qui s'appelle Nana, comme un nain, eh bien on peut le cultiver en pot. Donc quel que soit le type de jardin que vous avez, eh bien vous pouvez accueillir un grenadier. Alors, une petite chose à savoir, c'est que les fruits, eux, apparaissent pas sur des arbres avant 3 ou 4 ans. Et l'arbre va produire une vingtaine d'années, alors que je disais, il peut vivre 200 ans, donc c'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement intéressant, par exemple, pour les gens qui veulent faire de la culture productive.
Bien sûr, d'accord. C'est plus de l'ornement, on va dire.
Non, mais si vous voulez, pendant... Vous plantez un arbre et pendant 3-4 ans vous attendez, après pendant 20 ans vous récoltez, puis après vous dites bah, qu'est-ce que j'en fais, vous êtes obligé de l'éliminer.
Et voilà, c'est ça.
Cela étant, j'habite Lille, Amiens.
Vous êtes limite, c'est un arbre qui vient vraiment des régions méditerranéennes. Il n'aime pas les gelées du matin au printemps.
D'accord.
Et il peut tenir moins 15 degrés quand même.
On va en parler dans un instant, vous allez rentrer dans les détails. Sur le plan botanique maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du grenadier, Patrick?
Déjà que son nom botanique est Punica granatum. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Punica? Parce que, en fait, c'est la pomme des Carthaginois, la Malum Punicum. Les Romains, à l'époque de Pline, appelaient Carthage la Punicie, et les Carthaginois étaient les Puniques. Donc, il semblerait que la plante était très cultivée à cette époque-là. Et c'est vrai que dans l'Antiquité, où on avait quand même moins de choix de fruits qu'aujourd'hui, la grenade avait vraiment, vraiment, vraiment sa place. Bon, c'est une plante dont il n'existe que deux espèces, donc Punica granatum, qui est notre grenadier, et le Punica proto-punica.
Oh là là.
Ce qui veut dire sorte de grenadier qui vient uniquement de l'île de Socotra. Est-ce que vous savez où est Socotra ? Socotra, c'est au large de la Somalie, donc dans un endroit hyper désertique, mais qui est une mine botanique, Socotra. Il y a des plantes qui ne vivent que là, qui sont totalement endémiques, dont ce grenadier, qui est la deuxième espèce connue de grenadier. Voilà. Donc on pourrait dire aussi que peut-être que le nom punica viendrait du latin punicius, qui dit, ça veut dire écarlate, punicius. Donc tiens, ça pourrait être la logique aussi, à cause de la couleur de la fleur.
Couleur de, du fruit, bien sûr. De quelle région du monde est originaire le grenadier, Patrick ?
Donc c'est moyen-oriental, certainement de l'Iran, donc la Perse de l'Antiquité. On trouve les grenadiers dans des climats semi-arides. Ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, la plante s'est vraiment répartie et on peut en trouver des naturalisés, on va dire, jusqu'au contrefort de l'Himalaya et depuis la Grèce. Donc vraiment, c'est une plante qui s'est répartie parce que c'est pas du tout compliqué. Un sol caillouteux, pauvre. Enfin, ce que n'aime pas le grenadier, c'est quoi ? Eh bien, il n'aime pas l'humidité. Donc, tout simplement.
Alors, est-ce qu'on peut, on a commencé à aborder le sujet avec Christian tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut cultiver le grenadier dans toutes les régions, Patrick ?
Alors, dans le nord-nord de notre pays, il est un peu déconseillé. C'est pas qu'il va mourir, mais il nous produira pas les fruits qu'on a envie. Bon, moi je vous parlais de la Touraine, c'est vrai que dans le Val-de-Loire, on va dire que c'est la région peut-être la plus septentrionale pour vraiment cultiver correctement un grenadier. Parce que il n'aime pas l'humidité hivernale. Donc déjà, le Val-de-Loire, il peut pleuvoir quand même pas mal en hiver. Mais la plante a besoin donc d'un climat qui ne soit pas trop pluvieux, parce que s'il pleut trop, bah, il n'y a pas beaucoup de fruits, et donc ça, c'est embêtant. Sinon, on peut tenter, parce qu'il est quand même assez souple, le grenadier, de le planter le long d'un mur bien exposé au sud, par exemple, et même de le palisser. Et à ce moment-là, ce que vous faites en hiver, bah, vous paillez le pied pour protéger éventuellement d'une grosse gelée, mais je pense que dans ce pays, il y a un moment quand même qu'on n'a pas eu un moins 15 degrés. Donc c'est quand même encore une plante qu'on peut pratiquement accueillir partout avec des résultats différents, bien évidemment.
Parfait. Le grenadier demande-t-il un sol particulier pour s'épanouir ?
Non, comme je vous disais, ça pousse vraiment partout, à condition que ça soit sec. À condition que l'eau s'évacue facilement. Bon, plutôt, on va dire, plutôt neutre. Je suis pas sûr que le grenadier adore les sols très 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 calcaires, mais bon, en Touraine, on peut pas dire que le sol est acide non plus. Il était plutôt beau. C'était caillouteux. Vous voyez les graves.
Oui.
On va dire que dans les régions où pousse la vigne, je pense que vous pouvez avoir des grenadiers sympas.
D'accord. Est-ce qu'on doit tailler le grenadier ? Et si oui, comment, Patrick ?
Alors, surtout pas trop, parce qu'il faut savoir que le grenadier fleurit et donc fructifie sur des branches âgées. Donc si vous ratiboisez le grenadier, il va falloir attendre 2-3 ans pour avoir de nouveau des fruits, donc c'est pas sympa. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si au départ de la végétation, vous avez eu des jeunes pousses qui ont été abîmées par le gel, vous les retaillez un tout petit peu. Au départ de la végétation, quand vous avez planté un jeune sujet, c'est peut-être pas mal pour équilibrer la silhouette, de faire une petite taille en fin d'hiver, etc. Donc vous allez raccourcir un peu les branches, l'équilibrer, mais bon. Faut pas être un obsédé du sécateur lorsqu'on a un grenadier.
Alors, comment maintenant on va s'intéresser aux fruits. Voilà. Christian Aquia va pouvoir entrer en scène. Je le vois piétiner depuis tout à l'heure, telle une petite grenade.
Oui, je marche sur le plafond.
C'est vrai.
J'admire Patrick Delanne parce que il est complètement avec 20 ans d'avance toujours sur nous. Il parle d'environnement, il parle de beauté. Et quand je l'entendais parler de désert, de cet endroit au large de la Somalie où tout pousse.
Vous y étiez.
Mais non, j'ai pas cette compétence.
Non, vous finalement, y étiez en fermant les yeux.
Dans tous les endroits où finalement il est difficile de faire pousser quelque chose, j'ai l'impression que la nature se défend tellement bien qu'il y a une richesse exceptionnelle.
Alors, à part en Antarctique, il y a des végétaux absolument sur l'ensemble de notre planète.
Alors, on revient aux grenades. D'accord. Comment consomme-t-on les grenades, Patrick ?
Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est un peu comme une pomme. C'est-à-dire que lorsque vous allez la cueillir, elle n'est pas à maturité gustative. On la récolte donc à maturité physiologique,
comme une pomme.
Et il va falloir attendre que l'écorce se colore vraiment en rouge-orangé. Là, on vous dit, la grenade est bonne. Parce que si vous l'ouvrez trop tôt, il y a quand même un côté
un côté sûr
qui est un peu délicat.
Alors, comment achète-t-on le fruit? C'est quoi l'observation pour l'achat?
Ben c'est ça, l'écorce qui doit être bien colorée, bien colorée, et surtout ne pas avoir, vous savez, la grenade, elle a encore le calice, c'est-à-dire les sépales, oui, qui sont à l'extrémité, comme une espèce de petite fleur là, qui a au bout du fruit.
Oui.
S'il est poudreux, s'il a l'impression d'être un peu en train de se dessécher, il ne faut surtout pas prendre le fruit, ça veut dire qu'à l'intérieur, il est sec.
Ah,
donc il d'accord. faut que la plante elle soit turgescente, comme dirait
Vultueuse. Vultueux. Pourquoi les fruits éclatent-ils très souvent sur l'arbre, Patrick?
Ça, c'est un excès d'eau. C'est essentiellement quand il y a eu une année trop pluvieuse, ou que vous avez. Alors surtout aussi, on ne plante pas un grenadier au milieu de la pelouse, par exemple, parce que quand on... ou même au milieu du potager, dans les endroits où les plantes ont besoin d'eau. Donc on va le mettre dans un endroit justement qu'on n'entretient pas. C'est ça qui est intéressant aussi. Un truc dans lequel rien ne pousse. Paf, vous plantez un grenadier. Il y a des chances que ça fonctionne. Et si vous avez trop d'eau, bon, quand l'année par exemple est très pluvieuse, comme en 2007 par exemple, bah il pleuvait tout le temps, bah les grenades
explosent.
Explosent pas, mais elles se fendent. Et
parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur, c'est ça?
Comment?
Parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur.
Oui, bien entendu.
Tout simplement.
Ça, notre docteur va pouvoir nous expliquer ce truc-là, mais dans le végétal, il y a beaucoup d'eau. Mais il y a donc une pression à l'intérieur. Mais et si ça continue, au bout d'un moment, la peau n'est pas suffisamment solide, et puis il va bien falloir que ça sorte.
Explosion cellulaire, et les bactéries qui vont attaquer le végétal vont faire pourrir le produit. Et l'année 2007 a fait pourrir 40% des pommes de terre en France, et beaucoup d'autres choses d'ailleurs.
On s'intéresse aux qualités nutritionnelles de la grenade, Patrick?
On va demander à notre cher monsieur Ricciard.
Mais là, c'est un ravissement, parce que la grenade est le concentré de tout ce que l'on peut espérer avoir en antioxydants. C'est-à-dire que
on va donner ça.
Si nos ministres, ministres dans les 6 prochains mois veulent avoir du dynamisme, on va leur donner des grenades en fruits.
On va attaquer les ministres à la grenade
tous les jours. Et c'est épicatéchine, zéaxanthine, proanthocyanidine, vitamine E, sélénium, c'est extraordinaire. Le seul souci, Patrick, c'est que personnellement, c'est peut-être une histoire d'absence de culture, mais j'ai du mal avec ce fruit parce que je ne le connais qu'en jus de fruits.
Sa texture est étrange. Hein.
Non mais voilà, la texture,
il faut nous expliquer
ça. Botaniquement, c'est quoi? Dans une grenade, vous avez à peu près 600 graines. Et autour de chaque graine, vous avez une pulpe. Il y a quelques semaines, on avait parlé de la passiflore. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une arie, on appelle. Je ne sais même pas si on ne dit pas un arie. C'est un peu bizarre. Mmh. Bon, donc, de la chair assez concentrée autour d'une graine. Et il n'y a que ça dans la grenade.
Donc, on suce la chair.
Voilà, et on...
Et on catapulte la graine.
Pouf,
donc, on met une cible en face de toi.
C'est ça.
On catapulte. Voilà.
Ou alors, c'est plus facile, effectivement.
François dirait que je suis facétieux.
Mangeons la grenade en face de son ennemi. C'est ça.
Finalement, avec une grenade, on a que le quart d'une pomme.
En quantité?
Oui.
Ah, oh bah sans doute, oui. En volume, mais c'est pas sûr.
Vous
avez plus de calories, parce que là, il y a 62 kilocalories par 100 grammes. Je crois que sur la pomme, on est à 50.
D'accord, on est plus
nutritif. Ouais.
Il y a beaucoup de sucre ou pas dans la grenade, Patrick?
14% de sucre.
Oui,
c'est pas terrible.
C'est bien, non, c'est pas le sucre qui m'inquiète, c'est le fait que pour avoir la qualité nécessaire par fruit par jour, il faut manger 2 grenades.
Ah. Non, mais moi je pense qu'il faut manger un petit peu de grenade et autre chose.
Mais bon, le problème c'est qu'en France, on n'a pas l'intelligence d'avoir, comme chez vous, Patrick, plusieurs fruits à consommer
en même temps, mais c'est tellement meilleur au point de vue du goût en même temps, je trouve.
Oui, je me suis
de mélanger les
fruits. C'est pas forcément la culture française.
Parce que surtout,
c'est vous qui avez raison. Hein.
La grenade, elle n'est pas extrêmement savoureuse. Mais si vous l'ajoutez.
Oui,
dans un mélange
de fruits, par exemple,
c'est sympa.
C'est ça, oui.
Donc potassium, phosphore, on l'a dit, vitamine C, etc.
Sélénium, c'est fabuleux.
Tous les antioxydants.
C'est un protecteur de peau. Si on veut résoudre la situation, c'est l'organe. C'est le fruit de la peau. Et il faut considérer que faites un cadeau à votre épouse, vous allez résoudre pas mal de ridules.
Ah. D'accord.
Voilà, oui, absolument.
C'est ça. Un lifting
c'est
naturel.
Un lifting naturel, absolument. Ça, je crois que, comme la lumière.
Je crois qu'en cosmétique, on en trouve d'ailleurs.
Comme la lumière, pardon.
Comme la lumière.
Bah
vous,
oui.
Vous placez de la lumière à quelques millimètres d'une peau, vous stimulez les mitochondries ou au niveau végétal, c'est pareil. Et bien, ces mitochondries.
Les chloroplastes, nous.
Les chloroplastes, et bien, concrètement, et bien, cela permet de restimuler les cellules de peau d'une personne de 50 ans et ces cellules vont avoir le dynamisme d'une personne de 35 ans.
Mais le soleil ne suffit pas. Il
le
fait plus que
le
ça.
Soleil suffit à condition en petite dose.
Une petite dose, d'accord.
Voilà. Le très soleil bien. Entre 9h et 11h le matin.
On parle
le
de...
soleil entre 17h et 19h.
On est d'accord.
Avec grenade à 19h30, c'est parfait.
Avec grenade à 19h30. Voilà, c'est le menu de Christian Ricard. Les vertus médicinales de la grenade.
C'est pas de la grenade, c'est du grenadier parce qu'on utilise en médecine traditionnel, essentiellement l'écorce et la racine, qui peuvent être dangereux. Il faut faire attention, il y a des alcaloïdes qui, à forte dose, sont toxiques. Donc, c'est pas quelque chose que je vous conseille d'utiliser vous-même. En revanche, on considère que c'est un déparasitant intestinal. Donc, il y a des préparations qui utilisent les substances, donc les molécules que l'on a trouvées dans la grenade, comme souvent dans beaucoup de plantes, hein, qui apportent des choses dans les médicaments. Et une chose très très importante sur le plan pratique, attention, le jus de la grenade forme des taches indélébiles sur les vêtements. Donc quand on mange la grenade, on met une serviette pour éviter de se tacher.
Le jus de grenade, on garde des qualités nutritionnelles ou pas, Christian?
Oui, bien sûr. Beaucoup, à condition de ne pas le laisser à trop longtemps à la lumière. C'est qu'un jus, il faut le consommer tout de suite.
Très bien. Mais on peut faire un jus de grenade à la maison ou c'est compliqué? Je m'en rends pas trop compte.
Ben si, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre les fruits dans une passoire.
Et, oui.
Et puis après, avec un pilon, vous allez écrabouiller tout ça.
Mais écrabouiller, ouais.
Comme on fait avec la passiflore.
C'est 20 minutes, hein. C'est 20 minutes.
Ah oui, c'est ça. Ça fait un peu de sport aussi, accessoirement. On revient dans un instant. On va terminer ce rendez-vous jardin avec Patrick. Christian est toujours là. Hein, il nous fait l'amitié de nous accueillir. Vous pouvez nous appeler et on aura Jean-Claude dans un instant au 32-16 qui va nous parler de son mimosa. A tout de suite, c'était RMC.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Le retour de ce week-end des experts, le jardin. Notez que, écoutez, dans 10 minutes, on retrouvera la météo et les infos de 7h. Et puis ensuite, ce sera Christian Pessé. On va parler de la conservation des aliments. Avec Christian, sujet très intéressant.
On était eux.
Et on recevra le porte-parole de Liber, qui, vous le savez, est une marque réputée hein, de réfrigérateurs, etc. Et on verra si on peut arriver à allonger en fait la conservation de certains aliments grâce à des technologies, nouvelles technologies dans le réfrigérateur. Ce sera tout à l'heure entre 7 et 8 et bien sûr toutes vos questions maison à Christian tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, dans ce rendez-vous jardin avant de retrouver les coups de cœur de Patrick, eh bien c'est Jean-Claude que nous accueillons. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bienvenue Jean-Claude sur RMC, vous êtes en Eure-et-Loire.
Au sud de Chartres, oui.
Au sud de Chartres, bienvenue sur RMC. Et Patrick qui est à côté, eh bien, écoute avec beaucoup d'attention votre question.
Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, bienvenue avec nous.
Je vous écoute tous les samedis, la météo du jardinier, là, c'est très intéressant. Et donc je vous ai envoyé une photo là, du mimosa.
J'ai reçu une photo de bout de bois. Hein.
Oui, c'est tout à fait.
J'avoue...
Donc je ne sais pas ce qui se passe parce que c'est une jeune pousse que mon voisin m'avait donnée au printemps 2019 que j'ai replanté dans un pot là et il avait bien pris et je pensais qu'il allait fleurir mais d'après mon voisin c'était trop tôt et là depuis février mars toutes les feuilles tombent.
Elles ont tellement tombé qu'il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus qu'un tout petit peu à la base. Non, franchement, votre plantation n'a tout simplement pas repris. Hein. Il a démarré au départ parce qu'il lui restait, on va dire, une quantité d'énergie résiduelle, si je puis dire. Il a envoyé tout ça au départ de la végétation, mais comme il n'a pas vraiment accroché, il n'a pas pris dans le thé. Je ne sais pas dans quoi vous l'avez planté, mais a priori, il y a quelque chose qui s'est passé au moment de cette plantation où vous l'avez aussi peut-être placé dans un endroit qui lui plaît pas, hein, parce que le mimosa en Eure-et-Loire, c'est quand même pas son pays de prédilection. Oui. Bon, même si on a eu un hiver extrêmement doux, il faut faire très attention, il faut le mettre vraiment dans un endroit particulièrement abrité, donc ça veut dire au creux d'un ensemble d'autres végétaux qui vont le protéger contre les vents dominants, contre les froids, etc. Et là, faut recommencer. Hein. Là, celui-là, vous pouvez faire votre deuil avec. Hein. Il n'est pas.
Cet hiver, comme on n'a pas eu de froid, donc cet hiver, je l'avais quand même abrité des vents, tout ça. Et là, au printemps, je l'avais ressorti derrière dans la cour, mais.
Oui, mais il a pas dû se plaire à l'endroit où vous l'avez mis, parce que franchement, là, il est ratatiné. Hein.
Tes feuilles sont.
Vous savez, quand une plante perd ses feuilles, quelle qu'elle soit, à une époque qui n'est pas l'automne.
C'est très mauvais signe.
C'est surtout signe d'un mal-être de la plante.
Eh oui.
Donc, notre travail de jardinier, expert ou pas expert, c'est quand même de réfléchir à se dire pourquoi la plante me fait ça. Il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est soit elle ne se plaît pas à l'endroit où on l'a mis, pour des raisons qu'elle ne vous dira pas, mais que de toute façon elle ressent. Soit la terre dans laquelle elle pousse ne lui convient pas, soit le climat a fait qu'elle a pris un coup de froid ou un coup de chaud, etc. Parce que aussi, il y a ça. Le printemps a été très chaud, à un moment donné, très tôt. Donc le mimosa, on se dit, ouais, super, il a chaud, il est bien. Mais en pot, ça doit être très, très, très abondamment arrosé, un mimosa. Si vous l'oubliez, alors là, il vous fait aussi la même chose que ce que vous avez vu. Donc revoyez un petit peu, on va dire, toute l'histoire de ce qui s'est passé avec votre mimosa. Vous trouverez peut-être la solution, et pour la prochaine fois, le mettre dans les conditions qui vont lui convenir.
Et au niveau terre, qu'est-ce que vous me conseillez comme...
Le mimosa n'aime pas les sols calcaires. Ça le fait vraiment chloroser. Donc on va mettre plutôt un mélange de terre normale avec du terreau. Mais il faut que ça soit drainant aussi. C'est-à-dire qu'il faut que les pots soient vraiment troués pour pouvoir évacuer l'eau en excès.
Je crois que j'avais fait un mélange de terre normale avec de la terre de bruyère. Peut-être que...
La terre de bruyère, ça vaut pas grand-chose. La terre de bruyère, c'est vraiment un substrat pour les fougères, pour les rhododendrons, pour des plantes particulières. On va dire que moi, ce que je mettrais sur un mimosa, deux tiers de terre normale. Enfin, quand je dis normale, il faut que ça soit friable. Un tiers de terreau. Et puis, j'apporterais peut-être une bonne poignée de fumier décomposé, voilà, un amendement organique à base de fumier et d'algues, vous voyez.
D'accord, ok. Ok, je vous remercie pour ces infos, je vais essayer de replanter une nouvelle pousse.
Et puis vous nous écrirez pour nous envoyer une belle photo de
oui,
mimosa.
J'espère.
Franchement,
parce que là, un petit tronc comme ça sans rien dessus, Patrick, quand il a vu ça, il était énervé, je peux vous le dire.
C'est-à-dire que je ne suis pas énervé, mais je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà.
Non, mais au départ, j'étais content, il avait bien poussé, et puis là, d'un seul coup...
Mais ça, il faut se méfier de ça. Hein. Une plante n'est reprise qu'après vraiment un an de culture complète. Il faut qu'elle fasse un cycle complet. Une plante pour être certain qu'elle a repris. Parce que souvent, vous avez un jeune plant, à l'intérieur, il y a quand même encore de la sève, tout ça. Donc au printemps, ça se réveille, ça démarre, vous dites « Ah, chic, c'est parti !» Et puis tout d'un coup, poum, poum, plus de force.
D'accord.
Bon, Jean-Claude.
Bonne journée, bonne continuation.
Écoutez, merci à vous de nous écouter, de nous avoir appelés en ce samedi matin. À bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Et voilà, ici, tout comme Jean-Claude, vous voulez poser votre question jardin. Patrick Miolan est là.